Capidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
C'est parti. Salut Alessandra.
Salut Lynn. Alors, dans ce 12e épisode de Crépidule, deux sujets un peu historiques, les voies lactées, que tu nous expliqueras, et la sorcellerie.
Yay, trop bien. Oui, parce qu'en fait, il y a actuellement une expo à Genève sur l'histoire de l'allaitement. Et il s'appelle Voies lactées, comme tu viens de dire, et il a été réalisé par un groupe de recherche interdisciplinaire nommé Lactation in History, ce qui est plutôt cool comme nom pour un groupe de recherche. Et en fait, leur expo a pour objectif, je cite de leur page internet, de mettre en valeur la dimension politique de l'allaitement de l'Antiquité à nos jours. En lui reconnaissant une portée sociale et symbolique, l'exposition met en question la dichotomie entre sphère publique et privée. Elle passe en revue les enjeux religieux, médicaux, sociopolitiques et artistiques de l'allaitement en fonction des différentes sociétés étudiées et des acteurs et actrices historiques.
Eh bien ça, je trouve que justement cette dimension politique, elle est aussi possible parce qu'il y a des historiennes, historiens, des religions, des arts, littérature, des archéologues, des anthropologues. Et je trouve génial que les disciplines se rencontrent et se croisent et permettent justement cette...
Cette
dimension un peu totale.
Totale et multifacette qu'on aime, enfin qu'on adore, je dirais même.
Passionnément.
Yes. Et oui, et en fait, moi, j'ai été enchantée d'apprendre la venue de cette expo. Donc déjà parce que dans l'équipe de recherche qui est majoritairement composée de chercheuses, il y a Yasmina Fuer-Janssens, qui est donc professeure de littérature française médiévale et qui est aussi l'une des deux personnes qui enseigne le cours général en études genre à la faculté des lettres à l'université de Genève.
De très bon niveau.
Yes, donc vraiment qui a été un cours pour moi en fait fondamental dans mon éveil féministe. Bah d'ailleurs tu l'as aussi suivi.
Oui.
Et il y a aussi en fait dans l'équipe de recherche Brigitte Roux qui est historienne de l'art et donc moi j'ai eu l'occasion de suivre des cours ou en tout cas des interventions d'elle pendant mon bachelor en histoire de l'art. Mais surtout, en fait, elle a donné une conférence, je ne sais pas si tu l'avais vue, qui moi, en tout cas, m'a beaucoup marquée sur les vierges à corps ouvert, qui sont en fait des statuettes de Marie ou encore de sa cousine Elisabeth, qui est donc la mère de Jean-Baptiste.
Ok.
Pour ceux qui s'y connaissent. Et donc, des statuettes qui datent du Moyen-Âge et qui ont en fait la particularité d'avoir des systèmes d'ouverture au niveau du ventre ou bien aussi des systèmes de transparence où tu peux en fait voir le bébé Jésus ou dans le cas d'Elisabeth le bébé Jean-Baptiste. Donc voilà, c'est quelque chose de particulier comme ça autour aussi de la maternité. Je ne me rappelle pas maintenant complètement de quoi ça, comment elle déroulait ses propos. Mais je me rappelle que ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée ce moment-là. Et en fait, cette conférence, elle était donnée dans le cadre de l'atelier interdisciplinaire de recherche et de débat à Bras-le-Corps, qui a eu lieu en 2011. Je vois que tu hoches la tête. Ça, tu t'en rappelles.
Ouais, mais j'avais suivi le séminaire suivant, mais je me souviens de cette thématique qui était abordée.
Ouais, et qui était organisée en fait par les unités des études genre et d'histoire de l'art de l'Université de Genève et le programme Master de Recherche CCC de la Haute École d'Art et de Design de Genève, une institution qui est d'ailleurs aussi connue sous le nom de la HED ou encore sous le nom code de l'École, car parfois dans les vernissages genevois, il arrive qu'un étudiant en art vient te demander si toi aussi t'es à l'école. Enfin bon, pour la, c'était la petite blague du matin.
À l'école quoi.
Ouais. The only, the one and only.
Ok. Merci de partager avec nous cette petite ethnographie du monde culturel artistique genevois.
Mais avec plaisir. mais enfin bon, si jamais il y a un livre qui a été publié suite à cette rencontre qui s'appelle « Abra le corps, matérialité, image et devenir des corps », publié chez les Presses du Réel. Mais enfin bref, Fuer-Janssens et Roux, c'était déjà super motivant. Mais aussi, cette expo m'a intéressée parce qu'il y a un peu plus d'une année, j'ai publié en mode do-it-yourself une BD sur le lien entre les politiques entourant l'allaitement au XVIIIe siècle et l'invention du terme taxonomique mammalia par le botaniste suédois Carl von Linné. une invention en fait qui a donné lieu donc à la catégorie de classification mammifère en biologie, qui désigne une partie du règne animal dont font partie les humains. On mettra en lien la BD. Mais donc, en fait, cette expo Voie lactée trace l'histoire occidentale de l'allaitement, comme on l'a dit, de l'Antiquité à nos jours, en abordant des enjeux différents. Et on visite, en fait, on traverse l'histoire comme ça à travers des objets du quotidien historique et contemporain liés à l'allaitement, mais aussi des œuvres d'art, des écrits. Et on apprend comment, en fait, les représentations de l'allaitement se sont transformées au fil du temps. Cette expo évoque notamment la place de l'allaitement dans certains récits fondateurs des sociétés, comme par exemple le mythe de Romulus et Rémus, où il est question de nourricière animale. Et justement, en visitant l'expo, parce qu'il y a pas mal de choses quand même ancrées dans l'Antiquité, je me suis dit... que ce serait vraiment trop bien en fait de parler de comment se déployaient les normes à cette époque, mais avec quelqu'un qui soit plus expert que nous, parce que même si moi et toi aussi on a une certaine connaissance historique, pour ma part elle va pas du tout aussi loin que ça. Et vraiment pour moi, par exemple, parler de l'Antiquité ou même l'imaginer, c'est un peu comme penser à l'espace, tu vois. Ça demande vraiment beaucoup de facultés de projection et beaucoup d'investissement, mais en tout cas ce serait une ou un invité à venir. Proposition bienvenue. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a marqué en fait dans cette expo, c'est que tout ce retracement historique montre en fait un fil rouge dans la représentation de la pratique de l'allaitement à travers, au fil du temps. Et c'est cette idée que le lait en fait a des facultés de transmission, par exemple de bonne santé, mais aussi des transmissions de la morale, de la spiritualité. Je sais pas si tu veux.
Oui, c'est ça m'a frappé toutes les dimensions sociales qui passent par ce lait. Tu as évoqué la religion, la morale, la notion de mythe. Il y a des considérations aussi d'appartenance ethnique ou de classe économique, mm-hmm. qui vont, tout ce rapport avec les nourrices.
Ouais, j'allais en parler.
Voilà, le fait, l'aspect symbolique, la médecine, les techniques aussi, parce que mm-hmm. tu parlais de ces objets.
Ouais.
Comment on a pu aussi tout d'un coup soit mettre en place des tire-laits, soit pasteuriser le lait des vaches et le rendre ainsi si populaire. Donc ouais, c'est vraiment une histoire totale.
Ouais. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que le lait, en fait, vraiment le liquide en soi, il a comme une sorte de faculté surnaturelle comme ça. Enfin, on injecte là-dedans tellement d'attentes et de pouvoir et de... qui en fait se transforme au fil du temps, en fait, c'est ça aussi. Puis après, comme moi j'avais pas prévu de tellement en parler ici, mais il y a clairement aussi quelque chose qui aussi, dans la représentation ou dans l'imaginaire collectif, entre quelque chose de sacré, de maternel comme ça, et quelque chose de très érotique. Là, je trouve aussi intéressant il y a des choses comme ça qui sont très complexes ou qui naviguent sur plusieurs champs en même temps. Mais justement, cette expo, elle met aussi en perspective la représentation qu'on se fait actuellement de l'allaitement, qui veut que du coup l'allaitement maternel en fait soit entre guillemets le mode naturel de nourrir un bébé pendant donc ses premiers mois de sa vie. Et ça n'a clairement pas été le cas de tout temps. Et par exemple, au XVIIe et au XVIIIe siècle, en France, il était plus que fréquent de recourir aux nourrices, donc à des femmes qui étaient engagées pour allaiter les enfants. Et ce recours était surtout pratiqué par la population citadine. Donc, à Paris et à Lyon, il y avait carrément des bureaux en fait de nourrices comme ça.
De recrutement de.
Voilà. Parce qu'il y avait aussi après, en fait, on a le gouvernement de l'époque a mis en place des sortes de critères de sélection de nourrices, parce qu'il y avait des idées aussi qui était une bonne nourrice, qui ne l'était pas. Et je pense, à mon avis, aussi lié en fait à des histoires de lait, tu vois, quelle femme produisait du bon lait et quelle femme ne le produisait pas, enfin.
J'ai vu, parce que, donc, préciser que vous avez une grande chance, c'est que ces propos ne seront pas absolument dans le vide, parce que soit vous pouvez aller voir l'exposition qui continue, je crois, jusqu'au mois d'avril, n'est-ce pas ?
Ouais.
Soit on mettra en lien le site de l'exposition et il y a en fait tous les textes.
C'est génial, bah, oui, ouais. Parce qu'en fait, l'exposition, et ça, c'est merci aux gens qui ont conçu l'expo, parce que ça, c'est incroyable. L'expo, il est, donc, il y a pas mal d'objets, de projections comme ça, d'images. Mais surtout, il y a beaucoup de panneaux explicatifs. Et moi, je suis quelqu'un qui peut assez vite m'ennuyer à lire dans les musées ou les lieux d'exposition. Et là, en fait, il y a tout sur Internet. Ils ont mis tous les panneaux. On peut tout télécharger. C'est génial. C'est trop bien.
Voilà. Et donc, j'ai vu sur ces panneaux que, justement, par exemple, on pouvait considérer qu'une nourrice qui avait eu des garçons donnait du meilleur lait que celle qui avait eu des filles.
Ok. Pour revenir à cette pratique aussi des nourrices, donc dans l'article Taxonomy for Human Beings de Landa Schiebinger, qui est une historienne américaine de la science, enfin de science et de médecine, elle explique que il y a dans des villes en fait comme Paris et Lyon, on envoyait jusqu'à 90% des enfants chez des nourrices vers 1780, et ça c'est quand même fou, enfin. Enfin, si on pense à juste aujourd'hui, tu vois. Puis c'est, bon, il y a quand même un moment, mais c'est pas non plus il y a 1000 ans, quoi.
Enfin, ça impliquait que les enfants vivent pendant une période à la campagne, ne vivent pas au sein de leur famille nucléaire.
Ben, ils étaient envoyés à la campagne, en tout cas le temps de l'allaitement. Enfin, les premiers mois. Après, je sais pas quels étaient les... Enfin, pendant combien de temps on allaitait les enfants, mais surtout beaucoup d'enfants en fait ne revenaient jamais parce que une des conséquences de la mise en nourrice a été une surmortalité infantile élevée due notamment en fait au transport des enfants. La plupart des nourrices étant à la campagne, comme on l'a dit, et en fait aussi des mauvaises conditions d'hygiène. Et des recours à l'allaitement artificiel, comme par exemple des bouillies ou des laits d'animaux, par des nourrices qui, enfin, j'imagine, se retrouvaient avec plus de bébés qu'elles ne pouvaient nourrir. Et en fait, avant le XVIIIe siècle, on ne s'occupait pas tellement du destin sombre de ces nouveau-nés, parce que de toute façon, une fois baptisés, ils allaient direct au paradis s'ils décédaient. Mais en fait, au milieu du XVIIIe siècle, il y a eu des transformations politiques. Et il y avait cette envie, en fait, cette idée ou cet idéal d'établir un État puissant. Et pour ce faire, c'est devenu en fait une préoccupation première de produire et de reproduire une population nombreuse et, entre guillemets, de qualité. Donc, tout d'un coup, les gens qui voulaient donc instaurer cet État puissant... Ils se retrouvent devant une sorte de hécatombe des nourrissons avec des enfants qui, enfin des bébés qui meurent massivement. Ils vont essayer de trouver la bête noire là-dedans et ils vont pointer du doigt l'industrie nourricière qui a très rapidement été désignée comme étant responsable des décès des nourrissons. Et il y a plein de médecins, philosophes et autres hommes de savoir. On peut par exemple citer Jean-Jacques Rousseau. Ou encore Carl von Linné, donc, dont on a parlé avant, qui en fait se sont alliés dans un sort de mouvement politique comme ça et intellectuel pour dénoncer le recours aux nourrices, en fait en exhortant les mères à allaiter leurs propres enfants et en louant après les vertus supposées du lait maternel. Et en fait, dans cette louange aussi de l'élite savante du XVIIIe siècle, il y a aussi eu une critique des classes. Et par exemple une critique des nourrices qui pour la plupart étaient issues des classes populaires de la campagne et que donc l'élite définissait comme sales et ignorantes, tandis que d'un autre côté aussi les aristocrates étaient critiqués parce qu'elles recouraient allègrement aux nourrices et elles étaient vues comme cruelles, égoïstes et privant leurs enfants de leur lait bienfaiteur. Donc, on voit que dans ce moment de pré-révolution française, c'était aussi vraiment une stratégie pour la bourgeoisie, émergente de se démarquer et d'affirmer ses valeurs. Donc, comme quoi l'allaitement est...
C'est sidérant.
Clairement politique. Après justement, quand je préparais ça, enfin bref, quand je visitais l'expo et puis que je relisais ma bande dessinée, tu vois, j'ai pensé à ce truc, comment des hommes, en fait, à travers l'histoire, des hommes justement qui sont des figures comme ça, historiques de la science ou, tu vois, de l'écriture, de la littérature. Jean-Jacques Rousseau, c'est, bon, pour ceux et celles qui ne vivent pas à Genève, mais c'est une figure qui est très présente dans l'espace public et qui est souvent aussi célébrée. C'était assez...
mais qui a tenu des sacrés propos. Hein.
Ouais, ouais. Et puis Madame, lui, alors lui, il jugeait très sévèrement les femmes qui envoyaient...
En soi, déjà.
il jugeait très sévèrement les femmes en soi, mais celles qui envoyaient aux nourrices aussi, ça, il disait que c'était atroce. Et en fait, Jean-Jacques Rousseau, il a eu genre 5 enfants et il les a tous envoyés en orphelinat.
Ouais, voilà. L'affaire est dans le sac.
Non, mais tu vois, ce truc de... on voit aussi à quel point le corps féminin, il est comme ça au cœur du discours politique et scientifique énoncé par des hommes. Vraiment, cette mise en perspective historique comme ça, elle est vertigineuse. Après, on ne va pas parler de toutes les infos qu'il y a dans cette expo, mais je trouve que ça fait aussi réfléchir, en fait, par rapport à des pratiques contemporaines de l'allaitement. Par exemple, comment fonctionne le tirage de lait au travail, quels sont les rapports aujourd'hui par rapport à l'allaitement en public. Moi, je vois jamais des femmes allaiter en public. Je me rappelle en Suède, en tout cas, c'est plus fréquent d'en voir. Ici, à Genève, j'en vois extrêmement rarement. Peut-être un peu sur un banc en été face au lac, mais...
Mais tu vois, je réfléchissais à ça aussi dans cette historique qui raconte comme l'allaitement a été instrumentalisé pour justement réorganiser, on en parle souvent dans ce fameux 19e siècle, qui occupait quelle sphère de la société. Et ça a fonctionné comme une assignation à la sphère domestique privée pour les femmes. Et donc, comme si ce scandale de l'allaitement public venait un peu transgresser cette mémoire...
De rester à la maison,
ouais,
quoi.
Mais
justement, ça, c'est aussi... c'est ce que tu dis, mais c'est intéressant aussi à quel point ce déplacement, donc cette critique, en fait, des nourrices a aussi aidé à construire, à participer à construire l'idéal, en fait, de la famille nucléaire, donc les parents et les enfants vivant sous un même toit, parce que tout d'un coup, l'enfant, dès qu'il est né, il est à la maison. Et quelqu'un est là pour s'occuper de lui et c'est la mère.
Puis ça, c'est génial parce que c'est des tels changements de représentation. Parce que maintenant, d'imaginer que ton petit bout de chou de quelques jours, tu vas l'envoyer à Pétaouchnak, être allaité par quelqu'un d'autre, tu vois, une femme ferait ça, on dirait, mais on crierait, on la brûlerait pour anticiper le sujet suivant, tu vois.
Ouais.
Ça, c'est vraiment fantastique,
ouais.
Ces retournements.
Ouais. À quel point aussi, enfin, faut pas beaucoup de centaines d'années, en fait, pour que ça s'ancre.
Ce qui est une bonne nouvelle aussi.
C'est vrai, parce que du coup, ça veut dire que dans l'autre sens, ça marche aussi.
Voilà, la capacité de transformation est là. Mais en tout cas, c'est un grand sujet de controverse féministe.
Ouais.
Hein,
oui, c'est clair. Moi, après, elle l'évoque dans les panneaux, que voilà, c'est un débat qui a cours dans le féminisme. Moi, j'étais pas très... très au courant, mais c'est peut-être aussi...
Tu vois, là aussi, il y a eu toute une... Je me souviens, par exemple, que pour ma mère, elle a eu des crevasses les premiers jours où elle a essayé d'allaiter, et tout de suite, il y a eu un discours autour pour lui dire « Non, mais laissez tomber, c'est pas la peine. Tu vois, Nestlé est là pour, pour répondre à tous nos besoins. » Donc voilà, moi, j'ai pas été allaitée. Et quand, à mon tour, je me suis trouvée dans cette situation et j'ai eu des crevasses, alors là, j'ai eu vraiment la sage-femme qui m'a donné des coupelles à mettre sur le mamelon en argent pour que ça cicatrise vite, des bidules, des trucs, des gels, des machins. Tu vois, dans un encouragement à l'allaitement.
Mmh.
Et puis, il y a quoi ? Il y a 30 ans d'écart entre une pratique et l'autre.
Ouais.
Mais justement, je trouve que le aussi le précieux de ces mises en perspective historique et de qui montrent tous ces changements suivant les époques, ça peut aider en fait les parcours individuels à se déculpabiliser face à ces choix.
Ouais, c'est clair.
Et ça, c'est juste.
Ouais. Bah, c'est génial.
Mais ouais.
Oui, mais en tout cas, allez voir cette expo, Les Voies Lactées. C'est jusqu'au 1er avril. Au bâtiment de l'Université de Genève qui se trouve en face du MEG à Genève.
Alors, je suis allée voir cette semaine une conférence sur le thème du féminisme et de la sorcellerie, qui est de nouveau une collaboration interinstitutionnelle entre le musée, le MEG, le musée d'ethnographie Genevois, l'Institut d'éthique d'histoire et d'humanité et l'unité d'histoire et d'anthropologie des religions de l'université, et avec un thème très vaste, médecine et possession. Donc, je suis allée écouter Stefania Consigliere, qui vient en fait de l'Université de Gênes et qui est une anthropologue biologique. J'ai pas encore bien compris ce que c'était la dimension biologique, mais voilà. Et qui en fait s'est revendiquée ou présentée comme ni spécialiste des féminismes, ni de la sorcellerie.
C'était bien parti.
Et en fait, voilà, je vais vous proposer un récit de cette conférence qui, en soi, a été très à la hache, comme ça. Donc, cette personne a évoqué plein de thèmes très fondamentaux, de manière très abrupte et voilà, ce qui fait que ça pose encore plein de questions. Mais je trouve que c'est intéressant aussi d'évoquer ces thèmes pour ouvrir notre esprit. Alors, le thème de la sorcellerie, en fait, elle le situe par rapport au fait, elle remonte l'histoire, que de notre appartenance culturelle. Donc l'idée, c'est de dire qu'on a beau être des homo sapiens, par exemple, mais ça ne fait pas de nous des humains. C'est vraiment notre appartenance culturelle qui va nous définir et faire société.
Je peux dire quelque chose?
Mais vas-y.
Parce que c'est drôle, parce que homo sapiens, ça veut dire homme de savoir, et qui c'est qui l'a inventé? C'est notre cher ami Carl von Linné.
Mais comme tout se s'enchaîne, s'entremêle, c'est magnifique. Ouais. Comme distinction du savoir, on va y revenir justement. Et donc cette définition d'appartenance culturelle, en ce qui nous concerne, c'est que nous sommes des occidentales modernes.
Ok.
Une conception qui n'est pas universelle, mais bien située dans cet axe occidental qui est assez variable, hein, mais qui passe au niveau de l'histoire par la Grèce antique, l'État romain, les monarchies médiévales et modernes. Et puis bon, c'est une hérédité dans laquelle nous sommes toujours, qui est cette étape de la modernité. Alors il y a plein de concepts autour de cette modernité actuelle. On parle de modernité liquide, de nouveau une grande inconnue, de post-modernité, d'hyper-modernité. Mais en fait, ces évocations nous font ressentir à quel point on n'est toujours pas sorti de cette étape moderne. Et alors, qu'est-ce que c'est cette modernité? Ben, c'est quelque chose qui, en fait, est défini par les historiennes et les historiens par, en fait, la découverte de Christophe Colomb en 1492 des Amériques. C'est à ce moment-là que est marqué le début de notre modernité, avec trois phénomènes qui se coagulent pour former cette configuration humaine et historique de la modernité. Ces trois phénomènes, Lynn, sont le colonialisme, le capitalisme et la science. Vaste programme. Parce qu'en fait, c'est à travers le colonialisme déjà que les Européens ont découvert qu'ils étaient Européens. Parce qu'avant, c'était une représentation d'appartenir, d'être sujet de différents royaumes. Mais en fait, cette Europe comme unité culturelle, qui était absente jusque-là, va tout d'un coup crever les yeux des colonialistes dans un sentiment d'unité culturelle.
Est-ce qu'il y avait déjà là aussi un petit côté bien raciste
Complètement. Complètement, parce que en fait, il y a une pulsion coloniale qui est de penser que le colon porte la vraie civilisation, donc la civilisation européenne. Puis bon, c'est aussi toujours un peu notre rapport de manière contemporaine. On est toujours un peu dans ce « on » et ce « nous » à penser qu'on est les détenteurs et détentrices des vraies valeurs. C'est aussi quelque chose, on peut y revenir, qui traverse les féminismes. Donc, si on pense qu'on est porteur de la vraie civilisation, alors on a le droit intérieur, tu vois, de revendiquer le fait de porter notre civilisation aux autres. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'est instauré, ce rapport au monde, par le colonialisme et pas par les guerres, parce que les guerres, c'est différent. Tu vas vraiment te situer en tant qu'acteur face à d'autres acteurs qui ne partagent pas les points de vue, puis tu vas combattre. Mmh. En chacun défendant sa vraie vérité. Tandis que le colonialisme, c'est vraiment une idée que toi, tu sais et que tu vas, par différents moyens, l'imposer aux autres. Et en fait, c'est qu'avec l'accumulation des richesses extirpées aux pays colonisés par les colons que le capitalisme a pu se mettre en place. Parce que ce système-là avait besoin d'accumuler des biens, enfin pas des biens justement, d'accumuler de la monnaie en fait, mmh. Et c'est vraiment grâce au colonialisme et à l'esclavage que le système capitaliste a pu se mettre en place. Tu vois, on tranche très fort. Ouais. Et en fait, les capitalistes, c'est les fils des colons. D'accord ? Donc, c'est le même mouvement, en fait, de réduction. Elle dit de réduction à une seule variable des multiplicités jusqu'alors présentes. Donc, des multiplicités culturelles, des multiplicités de systèmes économiques, qui vont en fait être balayés par ce capitalisme qui se veut hégémonique. Et en fait, on arrive donc au troisième point qui est la science, c'est que la justification cognitive et culturelle de notre supériorité, c'est quoi ? La science. C'est ça qui fait la différence, tu vois, contre les croyances, les superstitions des autres. Donc nous, on serait les détenteurs, donc avec beaucoup d'ironie, de la seule possibilité de comprendre, de lire la nature sans lunettes, tu vois, déformantes, que seraient justement ces croyances et ces superstitions. Donc on pourrait, grâce à la science, comprendre la nature dans ce qu'elle est vraiment. Et donc en fait, il y a un parallèle, il y a un même régime de totalisation dans la science qu'avec le colonialisme et le capitalisme, mais là, dans le domaine des connaissances, hein, les connaissances vraies qui nous donneraient accès à la science. Et à côté de cette forme de représentation ou de rapport au monde, il n'y a en fait aucune autre qui peut se maintenir. Il y a même un terme, ça s'appelle le monisme, en fait, pour évoquer le fait qu'il n'y a qu'un seul régime, un seul monde, une seule manière d'être humain, une seule manière de production et de subsistance, une seule manière de produire des connaissances. Donc tout le reste doit être immédiatement disqualifié pour que cette hégémonie puisse se mettre en place. Par exemple, c'est des caractéristiques qui sont encore fondamentales du droit. Par exemple, dans le droit, il n'y a pas une conception d'individus universels, généraux, mais avec des spécificités qui fondent en fait ta capacité de revendiquer des droits. Et puis ces spécificités, qu'est-ce qu'elles sont ? C'est le fait d'être un mâle, blanc, en tout cas européen, adulte, parce que tu vois par exemple, quand tu n'es pas adulte, tu n'as pas l'accès à tes pleins droits de citoyen. Avoir le plein développement des facultés humaines, le fait d'être sain, par exemple la maladie, ça peut devenir très vite problématique dans ta capacité de jugement, des choses comme ça aussi au niveau juridique, avoir justement la pleine jouissance de tes facultés fondamentales. Et en fait, cette notion de la pleine jouissance de tes facultés fondamentales, c'est en fait d'être un être capable de rationalité.
Mais parce que là, tu as dit que une de ces facteurs, c'est d'être mâle. Mais ce n'est pas inscrit dans la loi, parce que tu parles de droit.
Bah, par exemple, tu vois, les femmes, elles ont été exclues de droit pendant très longtemps. Oui. Elles ont dû combattre pour rentrer dans cette définition de la citoyenneté. Mm-hmm. Le droit de travailler, le droit d'avoir de l'argent, tu vois, tout ça. Les femmes ont été exclues, justement, de cette représentation du citoyen pleinement possesseur de droit. Mm-hmm. Et puis cette rationalité qui doit nous animer, en fait, tu sais comment elle est définie ? Par la capacité de poursuivre ton intérêt personnel. En fait, c'est ça, faire preuve de rationalité, c'est de faire des choix qui vont servir ton intérêt personnel. Il faut également avoir des propriétés. La notion de, en italien, on dit « nulla teniente », d'une personne qui n'a rien, t'exclut aussi de cette définition de citoyenneté. Et ne pas avoir de pratiques sexuelles déviantes. Mm. On le sait, ça.
Pardon, je pose juste la question parce que j'ai tout suivi. Mais est-ce que tu parles est-ce que tu parles d'un point de vue très général comme ça, ou est-ce que c'est très ancré dans un temps particulier?
Bah, tu vois, ça a commencé à se mettre en place justement avec cette découverte des Amériques, dans cette manière où rencontrer les autres nous ont fait définir nous en tant que supérieurs. Donc ça, c'est un système qui s'est mis en place à partir de là, mais dans lequel on est toujours plus ou moins, avec plus ou moins de capacité de subversion, de contestation.
Ok, je comprends.
Mais ça reste une trame culturelle qui est encore très prégnante.
Ouais, je comprends.
C'est en fait, elle parle dans ces différentes caractéristiques que je viens d'évoquer, c'est les éléments qui configurent en fait la modernité. Avec cette particularité que ces caractéristiques, elles ont une sorte d'acide corrosif auprès des autres régimes, tu vois. Il y a un mécanisme de destruction qui passe par la disqualification de l'autre. C'est le fait de dire, ben voilà, ta manière de penser, elle, je la rejette, elle n'est pas valable, elle n'est pas digne, elle n'est pas moderne. Les sorcières là-dedans. Alors en fait, bon, il y a eu un premier, l'image comme ça qu'on a un peu située au Moyen-Âge de chasse aux sorcières, c'est plutôt des personnes qu'on nomme actuellement des hérétiques. Vraiment, l'histoire de la chasse aux sorcières, elle se situe dans la deuxième moitié du 15e siècle jusqu'à la première moitié du 18e. Et justement, la fin du XVIIIe, c'est le moment où cette modernité, elle est vraiment triomphante dans son installation en Europe. L'idée, c'est que justement, les sorcières ne sont pas des êtres modernes. Tu vois, si on reprend, elles sont donc ni mâles, blanches, bon, ok, adultes, oui, mais elles vont justement, c'est des personnes qui ont parfois, ça c'était pas très clair dans la conférence, qui ont parfois effectivement des connaissances de guérison qui ne sont plus estimées comme légitimes. Mais parfois, c'est des personnes qui sont juste, par exemple, très pauvres, qui sont un peu marginalisées, justement, de ce système capitaliste qui est en train de se mettre en place. Et puis, on cite, par exemple, une vieille mendiante qui viendrait demander à manger auprès d'une, qu'est-ce qu'on va dire, une ferme, je ne sais pas si c'est vraiment le terme historique. Et les personnes refusent de lui donner à manger. Elle repart en ayant fait une petite phrase un peu incompréhensible en partant. Tout d'un coup, la moisson se déroule mal. Ah! C'est elle.
On la brûle.
On va la rechercher pour la brûler.
Ouais. Bon, je pense. Ok, chasse aux sorcières, hérétique, machin. Enfin, quelque part, on peut aussi parler juste de féminicide, quoi.
Voilà. Alors,
il y a quand même une population qui a été visée. Mais c'était les femmes.
Alors, il y a encore des nuances parce que en Europe, c'était particulièrement des femmes qui ont été accusées de sorcellerie, alors qu'aux États-Unis, c'était plutôt des hommes. Et qu'en fait, je ne sais pas si j'arrive à vraiment bien expliquer, mais l'idée, c'est que en Europe, c'était souvent les femmes qui restaient dans le village. Tu vois, les hommes partaient justement travailler ailleurs qu'à la ferme, comme c'était le cas avant. Donc, c'est les femmes qui restaient dans les communautés avec justement un rapport à la connaissance plutôt traditionnelle, qui était gardienne d'un temps passé, en fait, qui était donc plus menaçante, alors qu'aux États-Unis, c'était plutôt la figure masculine alternative à cette modernité qui a été visée. Bon, il faudrait approfondir, mais pour dire que c'est encore des nuances. Okay. Et puis de même que cette qualification de sorcière, en fait, ça a des visages tellement différents, suivant les régions, les époques, les histoires individuelles, qu'en fait, on devrait parler presque de personnes accusées de sorcellerie. Mais donc ces personnes-là, en fait, elles étaient porteuses un peu de toutes les caractéristiques négatives de cette pensée moderne. Parce que par exemple, je ne sais pas exactement à quelle période ça se situe, mais il y a tout d'un coup une mise en place d'une aristocratie des savoirs. Donc tout d'un coup, il y a une lutte qui va se mettre en place entre les médecins qui ont été formés de manière académique et puis les personnes guérisseuses qui pratiquent plutôt un savoir-faire, qui pratiquent plutôt une guérison qui est par exemple de considérer l'ensemble relationnel dans lequel une personne se trouve, puis de dire que si tu viens en te plaignant d'un mal de ventre, c'est pas le mal de ventre que je vais considérer en tant que guérisseuse, mais c'est de comment tu t'entends avec ta famille, comment ça se passe avec tes animaux même, etc. Donc une pensée qui est complètement mise de côté par cette médecine qui commence à se mettre en place, symptomatique et légitimée. C'est aussi souvent des femmes donc, qui occupent des positions sociales marginales, qui sont par exemple vieilles, et du coup des affiliées de cette vision des femmes dans leur capacité reproductive. Puis qu'en fait, tu sais, il y a une dimension des fois aussi un peu sacrée dans certaines ethnies par rapport à la ménopause, de dire qu'une fois que les femmes sont sorties de ces cycles-là, elles peuvent alors tout d'un coup rentrer dans des sphères masculines ou dans des sphères de pouvoir, mais en même temps sont jugées comme étant dangereuses. Des personnes solitaires, qui sont pas riches, parce qu'il y avait aussi cette idée que se faire payer, c'était pas bien en fait. Quand tu recevais un don ou des capacités, tu te fourvoyais en demandant de l'argent. Mmh. Ouais, bon, mais ça tombe mal, parce que comme c'est le savoir-faire que t'as, il te rapportait rien en fait. Il te sortait justement d'une économie de type capitaliste. C'est des êtres qui sont qualifiés comme des êtres non rationnels parce que justement ils prennent des choix qui ne servent pas leur intérêt personnel et qui vont par exemple rentrer dans des schémas de pour guérir de rites, qui vont prendre des substances hallucinogènes, qui vont être initiés de manière secrète, dangereuse, donc pas du tout les standards de construction de savoir tels qu'ils commencent à se mettre en place dans la modernité. Donc en fait, si on voudrait un peu creuser cette question, et j'y ai pensé très fort, elle l'a évoqué, cette Stefania Consigliere, pendant son intervention, il y a un livre qui est génial, dont on mettra les références dans le post, qui s'appelle Caliban ou la sorcière, je crois, de Silvia Federici, qui justement brosse toute cette imbrication entre la stigmatisation de ces femmes en Europe et la mise en place d'un régime capitaliste. Et alors le féminisme, parce que moi, ça faisait des jours, j'étais là, waouh, ça va être trop bien de faire rencontrer ces deux dimensions. Et en fait, c'était une sorte de note de bas de page chez cette personne. Elle l'a à peine évoquée, mais continuant à y réfléchir, parce que ce qu'elle a juste dit, c'est en fait, dans le féminisme traditionnel occidental, donc, qui est situé dans les années 60-70, il y a eu un grand mouvement de récupération de l'image de la sorcière. Dans un sens positif, de revendiquer, d'être affiliée à ces sorcières qui ont été brûlées. Et en fait, on pourrait placer justement les revendications féministes dans ce patriarcat occidental moderne qui a été vraiment d'une très grande violence pour la vie des femmes, notamment en Occident. Et en fait, voilà, cette chercheuse est assez, elle a fait une phrase comme ça en disant qu'elle n'appréciait pas le féminisme actuel parce qu'il continuait à véhiculer cette notion coloniale qui est de nouveau de projeter tes valeurs comme étant les bonnes à imposer aux autres. Et elle se demande si en fait ce mouvement, c'est pas en fait qu'on projette ce propre fantôme des persécutions, des stigmatisations, des discriminations qui ont été vécues de manière historique.
Mais c'est clair qu'il y a un féminisme occidental blanc qui est pas ok, quoi, enfin qui justement reste dans un discours colonial et d'un discours de savoir, d'avoir le bon savoir et de l'imposer aux autres, et aussi de prendre la parole à la place des autres, c'est insupportable, et qui est très comme ça, qui permet pas en fait de proposer des nuances, tu vois, qui permet pas d'aller dans l'intersectionnalité. Après, je pense qu'il y a beaucoup de féministes blanches, et j'espère que nous, on en fait partie, qui sont pas là-dedans. Mais oui, c'est clair qu'il y a un féminisme occidental blanc qui est problématique.
Et puis qui est très problématique parce qu'il nie en fait la capacité de réaction, d'action et de pensée à l'autre. C'est comme si moi, je dois venir te libérer. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est un slogan qui est utilisé entre guillemets contre les hommes en disant « ne nous libérez pas, on s'en charge ». Mais qu'on pourrait aussi mobiliser dans ces rapports entre femmes occidentales et femmes non occidentales.
Qui sont mobilisées.
C'est ça. Et on n'a pas à les libérer à leur place.
On revient dans 2 semaines avec du matos, parce qu'on aura été à l'événement Art et Féminisme.
On va mettre aussi tous ces liens. C'est la volonté de visibiliser les femmes sur
la plateforme
Wikipédia, donc d'écrire des articles spécifiquement sur des femmes artistes cette fois-là, pour rendre plus multiple cette représentation wikipédienne. Ouais. On vous met tout ça en lien sur le post.
Ouais, et nous, on sera donc au Centre de la photographie le 4 mars à partir de 11h.
Bonne quinzaine.
Tchuss.
Tchuss.
Crépidule, le podcast qui porte une voix féministe à l'oreille publique.
Crépidule, c'est fini pour aujourd'hui. Pour écouter les autres épisodes, rendez-vous sur notre site crépidule.com avec crépidule au pluriel. Vous y trouverez aussi des publications post-pod avec des liens et des infos pour aller plus loin sur les thématiques abordées. Vous pouvez aussi écouter Crépidule depuis iTunes.